Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et le journal vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Et à la une, le ministre de l'Intérieur l'avait promis, gendarmes et policiers passent à l'action ce week-end.
Vous avez sûrement croisé les forces de l'ordre en sortant du bureau ou en allant faire vos courses. Les contrôles s'accélèrent pour faire respecter le confinement. Confinement qui va durer au moins jusqu'au 1er décembre. Déjà 100 000 personnes verbalisées. Terminée la pédagogie de la première semaine. Reportage à Vertou et Sainte-Luce-sur-Loire, signé Nicolas Bobby.
Dans les centres-villes, aux intersections, près des écoles, les gendarmes étaient partout.
Bonjour, bonjour gendarmerie. Bonjour. Je vais demander les papiers de la voiture, s'il vous plaît, votre permis de conduire et votre attestation de déplacement.
Je vais chercher mon fils.
Posez tout sur le tableau de bord.
Le colonel Christophe Reynaud du groupement de Loire-Atlantique.
Alors nous sommes sur une vingtaine de points de contrôle. C'est aussi à titre éducatif et coercitif, bien évidemment, pour l'application stricte des mesures gouvernementales.
Tolérance zéro, mais les militaires ont aidé cette habitante de Sainte-Luce-sur-Loire.
Sur la case en dessous, vous avez un petit QR code.
Et bien justement, je ne la retrouve pas sur mon téléphone.
Et normalement, ça a dû le télécharger sur le téléphone.
Je l'ai enregistré, mais je ne la retrouve pas dans les dossiers.
Ce collégien de 13 ans avait oublié que le port du masque est obligatoire dans le département.
Bonjour. Bonjour. Faut pas attendre de voir les forces de l'ordre pour mettre son masque, jeune homme.
Non, j'ai oublié de le mettre.
Eh ben oui, je vois ça.
Pas de PV, mais l'ado a bien retenu la leçon.
Nicolas Bobby pour RTL. À Nantes, les commerçants dits non essentiels ont crié leur colère. Hier, une centaine de personnes a déposé une gerbe de fleurs pour symboliser la mort de leur magasin. La situation sanitaire reste préoccupante dans les hôpitaux avec près de 4900 malades en réanimation. La courbe commence à peine à ralentir, mais on déplore encore 467 décès du Covid ces dernières 24 heures.
C'est une information RTL, Aude, les excès de vitesse sont en hausse depuis le reconfinement.
Notamment les grands excès de vitesse sur les routes qui ont doublé la semaine dernière. Pas d'embouteillage, de véhicules gênants à certaines heures et certains chauffards en profitent selon Marie Gauthier-Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Sur la semaine du 2 novembre, on a constaté plus 50% sur les grands excès de vitesse, au-delà de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Moins il y a de monde sur la route, plus il y a effectivement la tentation d'accélérer. Il n'y a sans doute pas que ça, puisque autant durant le premier confinement, on avait constaté une baisse très très forte du trafic, autant sur ce deuxième confinement, la baisse du trafic n'est pas aussi importante, puisque le travail continue. Donc il y a aussi sans doute d'autres facteurs, peut-être celui de, lorsque les contraintes sont très fortes par ailleurs, l'envie de se débarrasser de contraintes ou de ce qui est perçu comme une contrainte sur la route. C'est-à-dire qu'on prend de mauvaises habitudes et malheureusement on les garde.
Des propos recueillis par Christophe Bourreau pour RTL. La pandémie qui bouscule nos habitudes, mais aussi le calendrier électoral. Le gouvernement propose de reporter les élections régionales et départementales de mars à juin 2021, après un rapport. Selon Matignon, un projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres avant la mi-décembre. Eux estiment qu'aujourd'hui, un autre virus se développe dans nos quartiers, celui du décrochage de la République. Plus d'une centaine de maires, présidents d'agglomérations et associations réclament l'investissement d'1% du plan de relance pour les territoires, soit 1 milliard d'euros. 3 ans après le plan de mobilisation nationale, ils déplorent l'échec de la politique de la ville dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
Et on en reparlera tout à l'heure à 9h moins le quart avec notre invité Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, sera avec nous. Il est l'un des signataires de cette lettre. Après le coup de théâtre dans l'affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy contre-attaque.
L'ancien chef de l'État mis en examen pour association de malfaiteurs dans ce dossier a pris la parole hier soir à la télévision après la vidéo de Ziad Takieddine. L'homme d'affaires, principal témoin à charge contre lui, retire ses accusations de financement occulte lors de la campagne de 2007. L'ancien président dénonce un scandale qui restera dans les annales.
Je suis partagé entre une colère froide dont vous n'imaginez pas la profondeur et la force. Et je demande à chacun de ceux qui nous regardent qu'ils aient voté pour moi ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue comme je le suis depuis 8 ans sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». Pour quelle raison avez-vous menti ? Lui dit « parce que le juge m'a demandé de le faire pour arranger mes propres affaires ». Je suis stupéfié.
Nicolas Sarkozy chez nos confrères de BFM TV. Au lendemain de la commémoration des attentats du 13 novembre, une victoire de taille pour l'armée française au Sahel. Florence Parly, ministre des Armées, annonce la réussite de deux opérations dans le cadre de Barkhane. La dernière, jeudi, a permis de neutraliser une trentaine de djihadistes dans le centre du Mali. Une autre intervention a permis d'éliminer un cadre historique de la mouvance Al-Qaïda. Les militaires ont intercepté le pick-up du djihadiste. L'affrontement aurait duré une quinzaine de minutes. Une opération minutieusement préparée, selon le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major français.
Il y a eu plus de 3000 militaires qui ont opéré conjointement sur le terrain, 1600 militaires français, 1100 militaires nigériens, plus de 400 militaires maliens. Cet effort qui a été accumulé depuis des semaines nous a permis de couper les axes logistiques de l'État islamique au Grand Sahara. Ce sont des facteurs extrêmement positifs d'un point de vue militaire.
Le porte-parole de l'état-major joint par Brice Dugénie pour RTL. Et puis autre victoire de taille, on ne l'apprend qu'aujourd'hui dans le New York Times. Le numéro 2 d'Al-Qaïda inculpé aux États-Unis pour des attentats perpétrés contre des ambassades dans les années 90 aurait été assassiné secrètement en Iran au mois d'août. Il figurait sur la liste noire des terroristes les plus recherchés outre-Atlantique.
Et puisque nous parlons des États-Unis, une semaine après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, les pro-Trump continue de protester contre des votes frauduleux, disent-ils. On en parle dans un instant.
RTL. RTL Matin. Avec Agnès Bonfillon.
Et il est 8h08 sur RTL, la suite du journal d'Aude Vernuccio aux États-Unis. Aude, malgré des résultats plutôt flagrants, le camp des pro-Trump ne désarme pas.
Les médias américains ont annoncé hier le résultat final. 306 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden, 232 pour le président sortant. Les partisans de Donald Trump appellent à un rassemblement massif à Washington ce soir. Certains sont arrivés en avance, Sinamir. Les autorités craignent de gros débordements.
Depuis hier, on voit oui déjà dans les rues autant de policiers que de manifestants avec leurs casquettes rouges qui arrivent petit à petit dans la capitale fédérale. Les panneaux de bois installés sur toutes les vitrines avant l'élection sont encore présents. La crainte, c'est que dans les pas des supporters traditionnels comme Jim, venu remercier Donald Trump même s'il reconnaît qu'il n'a pas gagné, la crainte ce sont ces groupes d'extrême droite, Proud Boys, complotistes du QAnon qui viendraient grossir les rangs de cette marche. Et surtout qu'en face, les antifas et anarchistes qui se sont particulièrement mobilisés durant le mouvement Black Lives Matter sortent dans les rues également. Tiana, démocrate, ne restera pas en tout cas chez elle ce matin.
Je sais qu'on a beaucoup de fusils aux États-Unis, mais je pense qu'on peut régler ça pacifiquement.
Exhiber une arme est de toute façon interdit dans le centre de la capitale. La mairie et la police se disent très vigilantes pour Donald Trump, dont on ne sait pas encore si il viendra saluer la foule tout à l'heure comme il l'a écrit sur les réseaux sociaux. L'image sera en tout cas à double tranchant. Il y a 4 ans, un ou plusieurs millions de bonnets roses, de pussy hats, avaient défilé contre lui dans la capitale. Après son investiture, quelques dizaines ou centaines de milliers de supporters seraient certainement un revers de plus.
Sinamir, envoyé spécial d'RTL à Washington. Donald Trump pourrait d'ailleurs s'y rendre. Mais hier, depuis les jardins de la Maison-Blanche, il a quelque peu changé de ton, moins offensif que sur les réseaux sociaux. Au sujet de sa possible défaite, il a simplement déclaré « le temps nous le dira ». Il a en revanche largement évoqué le coronavirus et exclu tout reconfinement alors que les États-Unis battent de nouveaux records. 189 000 cas sur la seule journée d'hier. Le maire de New York a décidé de fermer les bars à 22h. Question en suspens pour les écoles. Les sports, et à noter deux événements annulés. D'abord en football, le match de Ligue 1 Marseille-Nice est reporté sine die. 12 joueurs testés positifs au Covid-19 selon le club niçois. La rencontre devait avoir lieu samedi prochain. Et puis en rugby, c'est le match France-Fidji de demain qui est annulé, cette fois pour des cas de Covid dans le camp adverse.
Et puis cette question, les Bleus vont-ils rebondir ce soir?
L'équipe de France de football affronte le Portugal à Lisbonne en Ligue des Nations. Des Bleus sérieusement menés mercredi dernier en match amical. Défait 2-0. Ils vont devoir se racheter selon notre consultant Robert Pires.
Il va falloir vite réagir, vite rebondir. Donc c'est un match, honnêtement, je pense que c'est un bon match pour avoir une bonne réaction d'orgueil. C'est ce qu'on attend des joueurs expérimentés ou des leaders. Maintenant, aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Ils savent que cette rencontre face au Portugal, elle est importante. Et puis c'est surtout un vrai test parce qu'on se déplace, moi je trouve, chez un des favoris pour le prochain Euro. Donc est-ce qu'on sera capable de se mesurer à ce genre d'équipe avec les joueurs que l'on a, l'effectif que l'on possède? Moi je pense que oui. Il va falloir qu'ils montent d'un cran, mais ils le savent. Ils sont grands, ils sont professionnels. Tout le monde sait qu'on est passé au travers face à la Finlande. Mais ce que j'attends de l'équipe de France, c'est une réaction de champion, une réaction d'orgueil défensivement. Mais quand je dis défensivement, c'est pas juste les quatre défenseurs, d'avoir une équipe qui sait attaquer ensemble et défendre ensemble. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que sur ce point-là, on soit précis et surtout qu'on ne laisse pas d'espace aux Portugais, parce que les Portugais, ça va très vite. Techniquement, moi, je trouve qu'ils sont armés. Défensivement, ils ont des joueurs vraiment de haut niveau. La question, donc, est-ce qu'on arrive au bon moment? Je ne sais pas, parce qu'on arrive à Lisbonne avec justement cette défaite dans nos têtes. Donc, c'est un vrai test. Ça peut être une révélation par rapport à notre comportement contre le Portugal.
Robert Pires au micro de Philippe Sanfourche pour RTL. Coup d'envoi du match ce soir à 20h45. Et puis pour terminer ce journal, une devinette, Agnès. C'est un geste non barrière qui a disparu de la planète depuis mars 2020. Il peut être amical, amoureux, étouffant même parfois, et il semble tellement nécessaire ces temps de pandémie. C'est le câlin qui fait de la résistance. Évidemment. Je vous propose d'aller ce matin dans un lieu inédit près de Trévise en Italie. Une maison de retraite a imaginé une salle spéciale équipée de rideaux en plastique mou. Et donc, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Les résidents peuvent y retrouver leur famille pour Valérie, un instant stop. De complicité en toute sécurité. Reportage d'Anne Lenier, et c'est très sérieux pour RTL.
Dans un grand salon lumineux, des sortes de boxes de protection aux parois en plexiglas ont été installées. Ils sont équipés de rideaux anti-contagion transparents en plastique mou, de fauteuils confortables et de micro-casques, car le port du masque peut voiler les voix. Écoutons la joie de Lina, qui pendant 9 mois n'a pu contacter sa grand-mère que par appel vidéo.
Elle a mis mes mains sur son visage, elle m'a enlacée, elle avait les larmes aux yeux, c'était très émouvant pour elle et pour moi.
Elisabetta Barbato, directrice de la résidence Domenico Sartore, note que les effets sur les patients sont immédiatement bénéfiques.
Les câlins contribuent à augmenter l'ocytocine, qui est une hormone du bonheur. On voit bien qu'ils se sentent plus aimés, plus rassurés.
Cette maison de retraite médicalisée compte bien devenir un modèle pour les EHPAD, où la solitude peut être aussi dévastatrice que le coronavirus.
Anne Lenier, correspondante d'RT. RTL en Italie.
Merci beaucoup, Aude. À tout à l'heure pour un nouveau journal à 9h. Et en même temps, Jean-Sébastien Petit-Demange entre dans le studio. C'est une coquille en sucre ? Presque. C'est une coquille. C'est une brioche au sucre.
Brioche au sucre.
Mais c'est super gentil. Merci beaucoup, Jean-Séb. À tout à l'heure.
Hein. Enfin,
merci.
Y a goût, hein, évidemment, parce que nous.
C'est ça. Mais on partagera, les filles. Tous les samedis, il est avec nous et nous en sommes ravis. Question foot, il s'y connaît. Question Paris aussi. Ça tombe bien.